Bonjour et bienvenue à Regard Croisé avec Fulgence Blanc et
Arlette Farah.
Bonjour Arlette.
Bonjour Fulgence.
Oui, quelle belle journée ensoleillée.
Oui, profitons-en.
On est en soirée, on n'est pas en début de journée, on est en fin de journée, mais c'est encore du soleil. Même en studio, on sent le soleil.
Oui.
Alors, on va commencer aujourd'hui l'émission avec le co-porte-parole de la 23e édition des rendez-vous de la francophonie. Donc, commencé depuis le 1er mars et jusqu'à la fin du mois de mars.
D'accord.
Et puis cette année, c'est un clin d'œil à l'Acadie et aux Acadiens.
Eh bien, tant mieux.
Alors, et de quoi tu vas nous parler
ensuite,
en deuxième partie?
Ensuite, on va recevoir Taras Kulich, qui est directeur général de l'Orchestre classique de Montréal. Et puis, leur demander, bien, comment ils s'en sortent avec leur web diffusion et tout leur programme, parce qu'ils travaillent intensément là-dessus. Alors, on en discute un petit peu plus tard.
Ok. On va tout de suite en musique comme d'habitude.
Eh bien, comme d'habitude.
Oui, avec ce co-porte-parole qui n'est pas seulement juste co-porte-parole. C'est un entrepreneur, c'est un slammer, c'est un écrivain, c'est un comédien. Qu'est-ce qu'il ne fait pas, lui, Yao? Il porte plusieurs chapeaux, ce monsieur. Voilà, on va tout de suite avec sa pièce « Miroir ».
Aujourd'hui, c'est un atelier d'écriture. Mais c'est un atelier d'écriture créative, celle qui permet de s'exprimer, celle qui permet de faire passer un message, celle qui permet tout simplement de laisser libre cours à notre imagination, à notre émotion, à nos sentiments. Et je vais vous guider dans l'atelier pour être capable de faire ça en vous montrant un exercice pour le faire. Nous allons écrire.
Je tiens en équilibre sur les aiguilles fragiles de l'amour et de l'amitié. Calme. Un bref instant d'oubli de pure sérénité, sans le regard de l'étranger comme une horloge sous moi qui vibre. Le temps m'a oublié. Dans son marasme routinier, comme la montre au mur fixé, une rare instance de liberté. D'un esprit vif, cicatrisé. Surprenante épilepsie d'un quotidien rempli d'embûches, mon Mont Everest, je le conquis. À chaque obstacle, je trébuche. À chaque envie de faire l'autruche. À chaque remarque de simples passants que l'handicap seulement effleure sans qu'ils en sentent toute la douleur. Ou encore même juste ce matin, fallait déjà que je sorte du lit. Mes plaies fantômes, oui, m'impatientent. L'humilité face à la vie. J'ai beau me dire que c'est injuste, mais l'empathie, je l'ai comprise. Un casse-tête de solutions, comment guérir est la question. Mais le plus dur n'est pas la cure, c'est vos manquements et perceptions. J'ai le moral bien acéré, déterminé de triompher. J'ai mis du temps à accepter, à refuser d'être isolé. À m'accepter comme amputé, à l'accepter comme aveuglé. À voir le jeune paralysé dans son fauteuil, les yeux brillés. Débrouillardise est désormais le mot qui prime, tandis que d'autres dans l'ignorance nous sous-estiment. La société s'est adaptée, je le consens. On parle d'accessibilité, on fait des lois, j'en suis conscient. Mais le défi est dans le fond, pas dans la forme. Des rampes d'accès nous bâtissons, mais est-ce le cœur que l'on transforme? Quand pour l'aider vous hésitez, vous le voyez, mais le fuyez. Est-ce par pitié ou juste par simple méchanceté? Mon entourage a comme mission le rôle du phare quand je navigue l'incertitude, le désespoir qui m'accapare. Dès la naissance, on parle d'une vie tracée, une évidence. En grandissant, notre apparence est altérée. Nouveau contrat, faut s'adapter, naturellement, chimiquement ou peut-être médicalement. Si la détresse a sa violence, j'ai du courage dans mon silence, de l'espoir dans ton absence, juste un bémol sur le fil de mon existence. Toujours présent lorsqu'invisible, que tu fuis mon blanc des yeux, ou que tu juges que mon besoin soit dispendieux, ou même crédible. En vérité, j'ai de la chance. Toute chose arrive pour une raison. J'incarne la persévérance, mes petits enfants, l'admiration. Vulnérable, mais résilient. Oui, j'aime la vie, dans mes douleurs, ou la noirceur, quand sur ma peau, le soleil sourit. Je vous l'accorde, nos différences créent l'inconfort. Pourtant Morin l'a déjà dit, nos convergences nous rendent plus forts. Oui, l'union fait la force, c'est déjà dit, je le répète. Main dans la main, je parle d'amour et d'équité pour être honnête. À toi assis face à ces mots, on a tous un peu peur du noir. Je te passe le flambeau pour que cette fois tu puisses le voir. Sur ton chemin, tu observeras du coin de l'œil un il ou elle qui tient fermement dans ses mains sa déficience comme une chandelle. Le feu, tu l'as dorénavant pour lui allumer la bougie. Un sourire, un salut, une convo si ça te dit. La compassion n'a pas de prix, et encore moins est obligée. Mais le plus beau n'est pas l'idée, plutôt le geste d'un brin d'humanité.
Yao, Miroir, avec au piano Mariam Dumasé, au violon Olivier Philippe Auguste. Notre invité déjà avec nous au téléphone. Voilà, bah, c'est une artiste. On ne va pas seulement l'inviter, mais on l'a invité. Normalement, on l'a invité pour parler de sa collaboration avec la 23e édition.
Voilà,
des, voilà, des rendez-vous de la francophonie. Mais comme c'est une artiste, on peut pas se
ne pas en parler.
Mais on va commencer d'abord par les rendez-vous avec les Acadiens, la francophonie. Bonjour Yao.
Bonjour.
Bonjour à vous. Comment allez-vous?
On va très bien. Et vous?
Ah, quelle belle voix.
Ah oui, Yao.
Faut que je le dise quand même. Quelle belle voix.
Ah oui. Ah oui, il a quelque chose dans la gorge, dans les poumons. Voilà, je l'ai vu très 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 court il y a quelques années au Balatou. Il a cassé la baraque là-bas, je me rappelle bien. Je lui ai dit, bon ben je vais être un jour comme ça. Et puis bon ben, il est co-porte-parole. Alors comment cette 23e édition de ces rendez-vous de la francophonie, comment on devient co-porte-parole ou bien porte-parole d'un grand événement comme ça, pan-canadien?
C'est une bonne question. Oui. Essentiellement, j'ai été sélectionné, j'ai été choisi. J'ai été approché par la Fondation canadienne pour le dialogue des cultures, qui est l'organisme organisateur des rendez-vous de la francophonie, qui m'ont demandé d'être porte-parole cette année et qui m'ont présenté le projet, qui m'ont présenté le thème de cette année qui est l'Acadie au cœur de mon pays, une langue, des milliers d'histoires, et qui m'ont parlé de leur projet et de l'idée d'avoir Jill Barber, qui est francophile de Vancouver, comme co-porte-parole. Et je me suis dit que non seulement c'était un honneur, parce que c'est un événement pour Canadiens,
c'est une artiste comme toi aussi. Yao.
Effectivement, voilà. Un artiste de musique aussi. Mm-hmm. Donc j'ai été approché par les organisateurs et puis après avoir mûrement réfléchi à ce teneur-là, j'ai accepté.
Ouais, bravo.
Aussi bravo. Simplement que ça, et bravo.
Oh, voilà, bravo. Alors comment ça se passe? Ça a commencé depuis le 1er mars, hein, c'est jusqu'au 31. Comment se passent les événements? On va parler de la programmation un peu plus tard.
Effectivement, d'habitude, les rendez-vous de la francophonie ont lieu à chaque année, du 1er mars au 31 mars. Et généralement, à l'échelle du pays, il y a des partenaires qui organisent des activités en personne. Donc, il y a toutes sortes d'activités. Il y a des concerts, il y a des visionnements de films, il y a énormément d'activités qui ont lieu généralement en personne. Mais cette année, toute l'édition est virtuelle en raison de la pandémie.
Pandémie oblige.
Exactement. Ouais. Donc, essentiellement, sur le site rvf.ca, les gens peuvent découvrir énormément de ressources. On a des programmations de films en partenariat avec l'ONF.
Avec l'ONF, quand j'ai vu ça, j'ai trouvé ça vraiment intéressant, d'ailleurs.
Okay. Exactement. Donc, on découvre aussi l'Acadie sous différentes formes. On présente la francophonie canadienne allant du Québec jusqu'au territoire du Nord-Ouest pour démontrer vraiment la vivacité de la communauté francophone. Et ce que j'aime beaucoup de cet événement aussi, c'est que c'est un événement par les francophones pour tout le monde. On n'est pas par les francophones pour les francophones.
On n'est pas exclusif.
Exactement. On invite les anglophones.
Nous, on n'est pas exclusifs.
C'est bien dit, Arlette.
C'est ça, qu'on invite les autres aussi à découvrir notre culture francophone, à découvrir cette belle langue en fait qui nous unit au final d'un pays à l'autre et qui est la deuxième langue officielle au Canada.
C'est
l'une des deux langues officielles au Canada.
L'une, pas la deuxième. Voilà. Oh, tu as bien fait de te rectifier rapidement là.
Qui va bientôt devenir plus officiel, en tout cas dans cette région-là, et peut-être dans d'autres aussi.
Oui.
Qu'on lui redonnera sa place.
Oui, il faut qu'on lui donne sa place. Et puis d'ailleurs, j'ai remarqué...
C'est la réalité.
Voilà.
C'est la troisième langue la plus parlée au monde. On oublie souvent que le français est la troisième langue la plus parlée au monde. On oublie souvent que la langue française, comme le thème qui m'a beaucoup interpellé, c'est une langue, mais c'est des milliers d'histoires. La francophonie est tellement diverse d'un bout à l'autre du pays, et j'ai eu l'honneur de faire des prestations dans pratiquement toutes les communautés francophones au Canada. Il y a juste trois endroits au Canada où j'ai jamais fait de spectacle, qui sont le Yukon, le Nunavut et Terre-Neuve et Labrador. J'ai eu la chance de faire des spectacles jusqu'à Yellowknife, voir cette francophonie.
Ah oui.
Yao, il connaît mieux le Canada que moi. Je suis jaloux. Hein. Yao, le site.
Son métier l'entraîne. Pour faire juste une petite parenthèse, moi j'ai été écouter ce merveilleux slam qui avait été fait à Troyes là pour le sommet de, je ne sais plus ce que c'est, en 2016.
16e francophonie à Madagascar, ouais. En 2016, oui.
Oh, magnifique.
On va l'écouter plus tard. Allez.
Ah, pardon.
Oh, ouais,
excuse-moi, je t'ai coupé ton élan.
Non, tu veux
c'est parce que j'avais été tellement fasciné par ça, c'est tellement beau.
Oui, c'est beau.
Cette réalité qu'on célèbre aujourd'hui, qu'on célèbre durant le mois de la francophonie aussi. Mmh. Et vous mettez le doigt dessus quand on dit une langue des milliers d'histoires. Quand je parle à certaines personnes et que je leur dis, moi, artiste francophone, ai eu la chance de jouer au Madagascar, au Cap-Vert, en Algérie, au Maroc, en Tunisie, en France, et grâce à ma musique francophone, d'aller jusqu'en Hongrie et en Pologne, les gens sont un peu surpris. Mais
c'est des pays francophiles.
Exactement, c'est des pays francophiles. Mmh. Je dis, partout où tu vas à travers le monde, tu vas trouver quelqu'un qui parle français.
Oui.
Et un bel exemple, c'est juste de regarder les instituts français. Combien il y a près de 800 instituts français à travers le monde.
Alors, ça me console et ça me rassure parce que je commençais à douter, à me dire que le français n'était plus parlé qu'en France, bien sûr, dans la région du Québec et dans certains pays africains, puis c'était tout.
Ah non, non, non. Arlette, comme il vient de le dire, les pays de l'Est de l'Europe, là, même la Roumanie, c'est un pays très, très, très francophile.
Et le Vietnam, des rendez-vous de l'Organisation internationale de la francophonie.
C'est vrai ?
Ouais.
Bah moi qui veux y aller en voyage, alors ça va être...
Donc, il y a aussi un habitué des événements de la francophonie, des grands événements de la francophonie. Alors, ce clin d'œil, comment on réagit ? Les Acadiens, là, ils doivent être en feu, en fête, là-bas, tous les jours du 1er au 30e. On leur fait un clin d'œil, toute la francophonie les regarde, là, actuellement.
Exactement, il se trouve que c'était un beau clin d'œil justement que les organisateurs faisaient en choisissant une porte-parole francophile à Vancouver, Jill Barber, un artiste franco-ontarien d'origine togolaise, né en Côte d'Ivoire, en Ontario, et que tous les deux on se tourne vers l'Acadie justement pour dire regardez ce peuple, cette résilience, et je trouve que les Acadiens sont très avant-gardistes dans leur maintien de la langue française, mais aussi dans la promotion de la langue française.
Oui.
Et ça, c'est quelque chose qu'on a, je pense que toute la francophonie canadienne a des leçons à apprendre, en fait, de l'Acadie.
Oui. Pour ceux qui n'ont pas encore vu l'affiche, allez-y sur la site rvf.ca, vous allez voir l'affiche, là, avec les drapeaux, les couleurs de l'Acadie. C'est beau. C'est avec la description en plus. Oui. Chaque parcelle du tableau est définie et
On va reparler de l'Acadie bientôt avec... Oui, pour la langue française, pour la langue française.
Alors là, vraiment, ce visuel-là pour cette année-là, le drapeau de l'Acadie, j'ai aimé ça. Il y a des gens qui n'ont pas aimé. Ça n'engage que moi, ce que je dis. Alors, Yao, on va aller en musique, on va écouter une deuxième pièce de toi.
D'accord.
Une de tes pièces encore, que j'aime beaucoup d'ailleurs, et Nomade. Voilà.
Oh.
Alors, et puis, on te revient tout de suite.
Thank you. Sous le soleil des affamés, lui s'en va le ventre plein. Toujours à s'éloigner, l'envie de partir à portée de la main. Si ce n'était que de l'histoire, dans son rétroviseur, de celle si seule assise derrière, dans son rétro qui pleure, confort sous un torrent de pluie. Car sa vie le retient, du peu qu'il tient encore dans les mains, le reste, il s'en plaindra demain. Ce geste aura raison de lui, modeste désir qui ne reviendra pas. Le temps qui s'effrite pas à pas, rattrape toujours celui qui fuit. Nomade, j'étancherai ma haine, je soignerai ma peine, itinérant sans sol, toujours insatisfait, nomade, j'étancherai ma haine, je soignerai ma peine, itinérant sans sol, nomade. Dans cette ville qu'il a vu naître, l'appétit est maître à ce vouloir d'exil. Cette fin pourtant il sait finira peut-être par tout lui prendre. En dédain, à quoi s'attendre quand le poison lui fait son effet? Mais ça vous le saviez déjà, au chat qui dort on ne touche pas. Les dégâts de la loi du talion ont fait de nous ivrogne et pion. La quête d'échappatoire dans un monde de fabulation, bientôt à en perdre la mémoire duquel les deux avaient raison. Nomade, j'étancherai ma haine, nomade, je soignerai ma peine, nomade, itinérant sans sol, nomade, toujours insatisfait, nomade, j'étancherai ma haine, nomade, je soignerai ma peine, nomade, itinérant sans sol, nomade, toujours insatisfait, nomade, j'étancherai ma haine, nomade, je soignerai ma peine, nomade, itinérant sans sol, nomade, toujours insatisfait, nomade, j'étancherai ma haine, nomade, je soignerai ma peine, nomade, itinérant sans sol, nomade. Éternel, insatisfait, pour qui, pour quand, pourquoi, ce qui est fait est fait. Il ne reviendra pas, demain repartira, insatisfait, nul n'est prophète chez soi. Nomade, j'étancherai ma haine, nomade, je soignerai ma peine, nomade, itinérant sans sol, nomade, toujours insatisfait, nomade, j'étancherai ma haine, nomade, je soignerai ma peine, nomade, itinérant sans sol, nomade, toujours insatisfait, nomade, j'étancherai ma haine.
Alors, on vient d'écouter Nomade de Yao, Yao qui est toujours avec nous. Là, on a fini de parler un peu de la 23e édition de la Francophonie. Puis bon, ben, allez-y sur le site là-bas, rvf.ca. Vous allez avoir toutes les informations, toute la programmation. Il y a de belles choses. Moi, depuis que j'ai découvert cet événement, j'étais tout le temps sur le site pour savoir ce qui se passait par-ci, par-là. Et pour en parler avec Yao. Yao, on va parler un peu de ta propre carrière personnelle maintenant. Comme je t'avais mis dans le courriel, on va faire d'une pierre deux coups. Voilà. Alors... Yao, tu es un citoyen du monde, toi?
Oui.
Né en Côte d'Ivoire.
C'est ce qu'il dit.
Oui, né en Côte d'Ivoire, de parents togolais. À Ottawa depuis l'âge de 13 ans, avec ta famille. Tu n'es pas venu seul quand même à 13 ans.
Non.
Ça me fait penser à quelqu'un que je connais d'ailleurs, qui n'est pas parti seul de son pays natal, qui est la Côte d'Ivoire. Voilà.
Exactement.
Voilà. Et puis bon, ben, la musique, et la plume, c'est quand? Comment la plume t'est venue?
Moi, je suis...
Comment t'es venu à la plume?
Je dis que la musique... je suis tombé dans la musique, c'est comme ça que moi je le présente. Déjà très jeune, en fait, j'étais fasciné par les mots. J'ai eu la chance d'avoir une mère qui me poussait souvent à la lecture, et en fait j'adorais le théâtre. C'est comme ça vraiment que moi ça a commencé. Ma mère avait tendance à me donner des livres et me dire de lire à haute voix, et je jouais des personnages en lisant à haute voix, et de voir l'effet que ça pouvait avoir. Et le pouvoir des mères.
Non, c'est bon d'entendre ça, parce que j'ai fait la même chose avec mes filles, donc je suis contente.
Il y a une amoureuse du théâtre qui est en face de moi ici, qui te parle actuellement. Quand tu as dit théâtre, elle a dit waouh. Alors on t'écoute.
Le monde, en fait. Je suis arrivé je me souviens, mais la première fois que je suis monté sur scène pour faire du théâtre, je devais avoir peut-être 10 ans, et la première fois que je suis monté sur scène pour dire que je voulais faire de la musique entre guillemets, je devais avoir peut-être 12 ans comme ça.
Oui.
Et en fait, je suis tombé dans la musique par pur hasard, parce que j'aimais les mots, j'aimais la poésie, et je me suis retrouvé au centre d'excellence artistique de la salle. Et j'ai fait une concentration en théâtre et en écriture et création littéraire. Et c'est à travers cette école-là que j'ai eu la chance de rencontrer des professeurs qui m'ont vraiment poussé, qui m'ont encouragé. Et je dis souvent que ça m'a pris 7 ans avant de réaliser que je pouvais faire d'une passion une carrière. Parce que ça, je suis d'une famille conservatrice. Chez nous, la musique, c'est vu comme un passe-temps, c'est pas vu comme un métier. Donc j'ai dû suivre le cursus régulier, un peu comme tout le monde, dans d'autres choses avant de pouvoir finalement me retrouver et dire bon voilà, j'ai des diplômes, j'ai une expérience de travail. Je suis pas marié, j'ai pas d'enfant. Si je veux essayer, c'est maintenant ou jamais. Mes parents.
Oui.
Était très compréhensif. Mon père me disait, je pouvais faire autant d'art et de sport que je voulais aussi longtemps que j'avais de bonnes notes. Donc, je pense que c'était un bel échange quand même.
Oui.
Il s'en est bien sorti.
Et puis, ils sont pas déçus de toi. Comment ils réagissent actuellement? Ils se disent, mais ouais, ok, c'est ce qu'il veut faire. Moi, il n'a qu'à le faire, hein.
Ça a été tout un processus. C'est sûr que pour les parents, il y a un peu cette peur aussi. Parce que j'ai quand même commencé. Ma mère m'a vu commencer très jeune. J'étais encore au secondaire quand on a fait sortir notre premier album à l'époque, en 2006, Renaissance, deux faces d'une même âme. Donc ma mère m'a vu vraiment un petit gamin qui est parti sur « j'aime bien la musique, j'en fais à côté » à quelqu'un qui dit « non, je veux sérieusement faire de la musique ». Donc il y a eu cette peur, c'est sûr, mais mes parents m'ont toujours encouragé d'une manière ou d'une autre. Je sais que ma mère, par exemple, dans les moments difficiles, n'hésitait surtout pas à me supporter, mais aussi à être très cash avec moi. Parlons franchement, des mois où j'arrivais pas à payer mon hypothèque et ma mère me disait, bon, mon fils, je vais la payer pour toi, mais si tu dis que tu veux faire de la musique, fais de la musique et débrouille-toi. Donc, il y avait quand même cette rigueur qui m'était inculquée. Et moi, j'ai pris la musique, je le dis souvent, j'ai pris la musique dans toute l'ampleur de ce que c'est. Pour moi, être musicien, c'est comme être un médecin.
Oui.
C'est comme faire un gâteau. Oui. J'estime que tu vends un produit, un CD, tu vends un service, un spectacle. Tu as besoin d'avoir un plan d'affaires, un plan de carrière sur 1 an, 3 ans, 5 ans. J'ai vraiment pris ce côté très business et professionnel de la musique à cœur aussi. Et je pense que c'est comme ça que mes parents, et je sais que c'est comme ça que mes parents sont rentrés dans mon élément. Parce que j'oublierai jamais la première fois que j'ai voulu m'exporter vers la France en 2013 et que je disais à mon père, je pars en France, et mon père qui s'est énervé un peu contre moi, qu'est-ce que tu fais? Tu gaspilles ton talent, tes diplômes et tout. Mais du fait que j'étais capable de sortir une fiche Excel à mon père et de dire, voici les revenus que j'ai fait avec la musique en 2010, en 2011, en 2012, voici mon plan de voyage, voici d'où vient le financement, voici mes rendez-vous prévus. Du fait que j'ai pu montrer ce côté très sérieux, mon père à ce moment-là a dit, ok d'accord, mon fils n'est pas juste un mode, je veux faire de la musique, il le fait sérieusement et j'ai vu le switch et j'oublierai jamais... J'ai vu le switch, en fait. J'ai vu mes parents passer de très réticents à
complètement emballés.
Voilà, à ma mère me demandant quand est-ce qu'on prend sa retraite.
Et que tu t'occupes de nous.
Exactement. Et mon père de l'autre côté qui... imaginez, mon père, mes amis rigolent souvent. On appelle mon père Mufasa, c'est le vieux sage, comme on dit.
Ah oui.
Qui est très calme, mais arrivé dans mes spectacles, lancement d'albums, et demander est-ce qu'il peut nous aider à rentrer des bannières, à installer des trucs.
bravo, tu as réussi à les convaincre avec les albums Genesis, Perles et Paraboles, Lapsus, voilà, et puis bon, oui. Voilà.
Pépé, oui.
Oui, arrête.
Non, juste un tout petit clin d'œil de ce que j'avais lu sur toi, c'était parce que ça allait dans la même ligne que pour moi le théâtre de ce que j'aime, c'est-à-dire dans les chansons, tu t'as été très inspiré par MC Solar et IAM, et Dieu sait que j'ai, j'ai bu leur album pendant des années.
Ah oui, et en fait, ce que vous dites est tellement vrai, parce que je dis souvent, c'est important de réaliser à quel point ces gens-là ont eu une longévité. Moi, ce qui m'intéressait dans le domaine musical, c'était aussi ça, c'était la longévité. Et dans cette idée de longévité, j'ai aussi vite compris, comme ces artistes-là, que je me devais de rester authentique, je me devais de rester très proche et fidèle.
De dire des choses vraies.
Public. Exactement. Voilà. Donc, j'ai vraiment pris ça à cœur.
Merci beaucoup, Yao. Il n'est pas juste artiste, il n'est pas juste pour la parole de la 23e édition, il est aussi entrepreneur et il prête également sa voix à l'épisode Le Destin du Balado Vraisemblable sur Ici Premier de Radio-Canada. Avec cette belle voix, ça ne m'étonne pas. Bon.
Félicitations en tout cas. Merci Fulgence de me l'avoir fait connaître. Je suis contente.
Merci
à vous. On va écouter, là, on va écouter comme troisième pièce avec tes deux collègues là, à Madagascar dans le cadre du 16e sommet de la francophonie à Madagascar en 2016. Koila, Joy et Yao. C'est du slam pur. Kaila, voilà. C'est du slam pur. Merci à toi et puis à bientôt. Hein.
Merci à vous. Merci pour l'invitation.
Au revoir. Oui. Oui,
ah, ça y est, on l'entend.
Mesdames et messieurs, méfiez-vous des vagabonds, artistes, réfugiés et autres adeptes des révolutions. Ils volent votre terre natale, votre langue, votre horizon. Ils se moquent du capital et des lois de vos nations. Ils sautent par-dessus les méridiens, se rapprochent de vos maisons. Déjà vos mers ne charrient plus que des vagues d'immigration et vos chemins se remplissent de poètes en panne d'inspiration.
On dit souvent que mon art dérange quand je dis ce que je pense et quand je pense ce que je dis, nuance, c'est étrange comme les temps changent. On dit souvent que mon art porte préjudice. On me plaide coupable d'utiliser mes mots à ma guise. Moi qui n'ai que les mots en guise d'armes, je les aiguise car c'est la justice que je vise. On dit souvent que mon art porte atteinte à l'autorité des institutions. Libre, j'abuse de ma liberté d'expression. À connotation, le slam est devenu synonyme de rébellion. On dit souvent que mon art ne sert à rien. Que slamer ne sert à rien, c'est cela ce qu'ils disent, c'est monsieur, madame, je sais tout, qui savent tout, sauf rien. Allez leur dire qu'on est tous sauf rien.
Parce que s'il y a une chose que je sais, c'est que je ne sais rien, disait Socrate. Et Descartes, que la parole a beaucoup plus de force pour persuader que l'écriture, sachant toutefois que les écrits sur les paroles souvent perdurent. Alors pourquoi j'écris? Serait-ce par soif de liberté? Par mélancolie d'un lieu où je n'ai jamais mis les pieds, face à ma feuille, un peu de paix et de sérénité, alors je crée. Toujours en quête de raison, souvent de se le dire et de partir sans raison. Oui, j'ai soif de liberté, mélancolique, d'un lieu où je n'ai jamais mis les pieds, que l'humain n'a pas souillé, où la liberté des uns s'arrête encore là où commence celle des autres.
Car chez nous, les femmes n'ont pas le droit à l'éducation.
Restez à l'écoute. Une mère, une
épouse... On revient avec la musique classique. À tout de suite.
Vous écoutez Regards croisés.
Alors après cette très belle entrée en matière des quatre saisons, on a le plaisir de discuter avec le directeur général de l'Orchestre classique de Montréal, OCM, Taras Kulich. Bonjour, bonjour, bienvenue.
Bonjour, merci, c'est un plaisir d'être avec vous.
Bonjour Taras Kulich.
Ma première question, avant qu'on parle des spectacles, j'aurais d'abord une petite question, s'il en est, pour l'Orchestre classique. Comment ça s'est passé? Comment ça a été abordé, le fait de faire de la web diffusion? Ça n'a pas dû être très facile pour organiser ces événements-là.
Ça, c'est une grande question. On pourrait passer une heure seulement que sur ça.
Alors, vous allez être obligé d'être bref.
Oui. Donc, pour dire rapidement, je dois dire que cette pandémie, s'il y a une chose positive dans tout ça pour le milieu de la musique classique en particulier, c'est que ça a ouvert la porte vers le numérique. Et c'est une chose dont l'industrie de la musique classique en parle depuis des dizaines ou une dizaine d'années, évidemment, mais qu'on ne savait jamais comment s'y rentrer ou comment s'en imposer. Mais finalement, avec cette pandémie, on n'avait plus le choix.
Oui.
Alors, on a décidé dès le début chez l'Orchestre classique de Montréal qu'on allait foncer tout de suite. Et on était une des premières orchestres en avril, tout de suite après la pandémie, de virer nos concerts en ligne. Donc, on a fait une douzaine de concerts en avril et mai en diffusion par les iPhones. Au début, c'était ça, par les téléphones intelligents. C'est comme ça qu'on a commencé. Et à travers l'été, on a travaillé fort pour voir comment est-ce qu'on va adopter nos concerts en salle, sans public, et de les mettre en ligne, de vendre des billets, premièrement, parce que c'est une stratégie qui n'a jamais été vraiment abordée dans notre milieu, c'est de vendre des billets pour des web diffusions, comme on les appelle aujourd'hui. Donc ça, il y a eu beaucoup de contraintes dans tout ça.
J'en doute pas une seconde.
Oui.
Mais ça s'est bien passé parce que vous avez été très actif ou très réactif, on devrait dire.
Exactement. Et je crois que c'est ça. Et c'est pour cette raison-là qu'on a eu du succès. Parce qu'on a tout de suite réalisé que si on le faisait pas, si on n'adoptait pas ce virage numérique, on serait perdu et tout le monde nous oublierait.
Oui.
Donc, on a continué, on a foncé, on a trouvé une équipe merveilleuse avec laquelle on travaille, c'est LiveToon, sous la direction de M. Guillaume Lombard, qui est aussi propriétaire de l'étiquette de disque Atma. Donc, la qualité, c'était numéro un pour moi. Donc, on a toujours 3 ou 4 caméras par captation. C'est toujours en haute définition. Et on a des réalisateurs, on a des caméras, on a des capteurs de son. Donc, c'était un grand apprentissage pour nous de faire ça, parce que normalement, on faisait tout simplement des concerts sur scène avec un public.
Bien sûr.
Mais vous comprenez que faire des diffusions, c'est vraiment autre chose.
Mais ça peut avoir deux choses différentes. C'est-à-dire qu'en même temps, le fait d'être en web diffusion peut vous amener des spectateurs qui ne seraient peut-être pas venus en salle. Ça, c'est le côté positif.
Exactement. Et spécifiquement sur cette question que vous mentionnez, c'est là-dessus que je suis très fier de dire qu'on a des acheteurs de billets de partout au Canada, aux États-Unis, en Europe, en Arménie. Pour le dernier concert qu'on a fait exactement hier soir, on a eu des acheteurs de billets d'Arménie. Alors, c'est fantastique, vous savez.
Ça, c'est le côté positif du web.
Oui. Le côté un petit peu négatif, mais ça, c'est pour les musiciens, c'est que c'est toujours peut-être plus difficile quand on n'a pas cet élan qu'une salle pleine peut donner en énergie et en amour.
C'est sûr.
Aussi.
C'est garanti, ça. Donc, ce que vous dites, c'est absolument la vérité. Mais vous savez, les musiciens aujourd'hui, ils sont ravis simplement de travailler.
Oui, je comprends ça. Tout à fait.
Alors, moi, je suis fier qu'on n'a rien annulé. On continue notre saison, on les engage, on les paye même plus que normal parce qu'on les paye davantage à cause des diffusions.
Alors,
ils sont heureux, vous savez, ils travaillent.
Ne me dites pas qu'on va bientôt dire merci à ce qui est arrivé. N'exagérons rien, mais c'est bien qu'ils aient du travail, c'est bien qu'ils puissent travailler, qu'ils puissent s'en sortir financièrement. Dieu bénisse, voilà, c'est ce que j'ai envie de dire, parce que c'est vraiment très bien. Là, il y a un spectacle qui a déjà commencé, qui a déjà débuté et qui dure encore jusqu'au 23 mars.
Exactement, oui, oui.
Vous nous en parlez un petit peu.
À Montréal.
Oui. Donc,
oui, un concert vraiment spectaculaire et très unique. Et c'est ça, c'est la chose qui nous rend unique, nous, comme orchestre, c'est que notre programmation est très variée et très diverse. Et ça ne va jamais être plate.
Oui, ben, c'est là où vous mettez l'harmonie à l'honneur, qui fait que vous avez des spectateurs qui sont d'Arménie et qui assistent à cette web diffusion. Ce que vous
oui,
nous disiez tout à l'heure.
Il y a aussi une grande communauté dans la diaspora d'Arméniens un peu partout au Canada,
oui.
À Los Angeles. Et on a même présenté une œuvre en première mondiale d'un compositeur canadien qui habite à Los Angeles, Kevork Kandonian. Et donc, ça ajoute toujours un flair assez international à nos concerts. Et on garde toujours ça en tête quand on fait notre planification de concerts. C'est de garder la diversité vraiment de tout la programmation de nos concerts.
Parce que là, ça va être c'est très important. Après le 23, qu'est-ce qui arrive? Quelle est la prochaine?
Après le 23, le prochain concert, c'est le 30 mars.
Oui.
Donc, toujours diffusé de la salle Pierre Mercure où on est en résidence.
Oui.
Une merveilleuse salle à Montréal.
Je la connais,
et,
oui.
Oui, donc ça va être les quatre saisons et en hommage du 100e anniversaire d'Astor Piazzolla, compositeur argentin,
oui.
Nous allons présenter les Cuatro Estaciones Porteñas, qui est les quatre saisons.
Bah, on va faire une émission pour ça prochainement.
Ah oui?
Je vous préviens, je vous le dis, oui. Je vous mets dans le secret tout de suite.
Ce n'est plus secret, là, puisque c'est sorti. Là.
Ouais, on va dire que c'est entre nous. Allez, restons simples. On va faire une petite pause musicale et on va écouter Jean-Philippe Sylvestre qui joue Sonate 4333 de Mozart. Ou 333.
Thank you.
Taras Kulich toujours avec nous. Alors, tout à l'heure, on parlait, justement, en parlant de la musique, elle fait du bien. Elle a fait du bien, en tout cas, pendant le confinement. Il continue à en faire. Parce que c'est important aussi d'écouter de la musique et de se sentir heureux.
Oui.
Ce que je voulais vous demander aussi, c'est tout à l'heure, on a parlé de comment organiser les événements. Ça a donc demandé une certaine créativité, peut-être créativité que vous n'auriez pas eue si ce moment-là n'était pas arrivé.
Je crois que vous avez raison. Oui, et c'est pour ça que je dis que c'est un côté positif de la pandémie, c'est que ça nous a forcé de penser en dehors de la boîte et de savoir comment est-ce qu'on va aller rejoindre notre public en ligne, en faisant évidemment en protégeant tout le monde, que tout le monde reste en santé. Et Dieu merci, le gouvernement nous permet de faire ces captations. Alors ça vérite bien pour le mal qui est bon. Donc au moins on est en contact avec notre public, on augmente notre public à l'international. Et nous donnons du travail à nos musiciens. Alors, en tout, vraiment, il faut des fois regarder le positif au lieu du négatif.
Ah oui, mais c'est la chose la plus importante qui soit, parce qu'il faut toujours rester en ligne avec ça. C'est bien bon de manger et d'avoir un toit sur la tête, mais en même temps, il ne faut pas perdre le lien. Et la musique fait partie des liens dont on a besoin aussi. Donc,
Je pense qu'on est tous d'accord que le concert vivant nous manque tous. On veut voir un public et le public veut voir les musiciens en personne. Mais la situation, elle est telle. Alors, on va être patient et on va attendre.
Oui.
On espère cet été. On verra.
Bien sûr, je le souhaite de tout cœur. C'est un moment quand on est dans la salle, en tout cas, je ne suis certainement pas la seule à vivre ça, c'est que ça fait un moment d'émotion quand tout le monde est là en train d'applaudir, qui est debout, on sent l'émotion de chacun et du coup, ça amènerait presque des larmes dans les yeux pour un final comme ça, ce qu'on ne voit pas de la même façon en web diffusion, même si on a le plaisir de la musique.
Oui, juste pour compléter ce que tu viens de dire, Arlette, c'est comme ça on est habitué normalement, le virtuel ça vient de naître avec la pandémie.
Oui, c'est ça.
Voilà,
c'est ça.
En gros. Ouais.
Comme on l'a dit, ça va revenir. Alors,
on espère.
Donc, il y a les 4 saisons, et puis qu'est-ce qu'il y a d'autre encore qui est déjà programmé?
Ben, ce qui est intéressant, c'est que vous venez juste de jouer Jean-Philippe Sylvestre et on donne un concert avec lui en avril, qui est tout Mozart. Donc, on va le présenter le 27 avril.
Date de mon anniversaire.
Ah oui! Merveilleux!
Elle nous dit en même temps qu'il faut préparer les cadeaux.
Voilà, c'est ça, préparer les cadeaux. Non. C'était drôle. Mais c'est bien. Et ça va durer combien de temps?
C'est 75 minutes environ, mais lui, il va jouer un concerto de piano numéro 23 de Mozart.
D'accord. Donc après, quand il y a ces spectacles qui sont à des dates fixes, est-ce qu'après, on a la possibilité de les voir, les revoir?
Les concerts restent en ligne pendant 2 semaines.
D'accord.
Comme celui qu'on vient de faire hier, il reste en ligne pendant 2 semaines. Donc le public peut continuer à acheter des billets jusqu'au 23. Oui.
Alors justement, en parlant des billets, on va avant de continuer, on les achète où? Sur le site?
Oui, notre site c'est orchestre.ca, donc c'est très simple, orchestre.ca. Et tous nos concerts sont sur la première page, il faut juste les choisir, cliquer dessus et l'achat de billets est très simple. Et le système de billetterie envoie le lien tout de suite pour visionner le concert qui se présente en ce moment. Mais pour ceux qui se présentent dans le futur, le lien est envoyé 24 heures en avance et c'est simplement, c'est très simple.
D'accord. Alors, ce qu'il y a, c'est que je voudrais savoir si, quand les portes vont rouvrir et qu'on pourra de nouveau aller voir les spectacles, est-ce que l'idée serait de continuer à faire à la fois du spectacle en salle et de la web diffusion?
C'est une bonne question. Vous savez que en ce moment, oui, parce qu'on a planifié pour le restant de la saison de faire des web diffusions jusqu'en juin. Donc ça, c'est garanti. Pour la saison prochaine, on va réévaluer et on va voir combien de concerts qu'on va faire en web diffusion. On n'est pas certain qu'on va faire toute la saison.
D'accord.
Parce que vous comprenez que ça coûte cher quand même.
Je m'en doute.
Oui, oui, tous les caméras, les ingénieurs de son, les caméramans et tout ça, donc ça coûte cher. Donc, je peux pas garantir qu'on fera des web diffusions pour chacun des concerts, mais fort probablement qu'on va en choisir 2-3 minimum et qu'on va faire quelque chose de spécial avec ça, comme on a fait en décembre le Messi, où on a eu au-dessus de 3000 spectateurs en ligne. Qui est merveilleux parce que, évidemment, le Messi, c'est une œuvre bien reconnue.
Oui.
Et je crois que celle-là, c'est sûr qu'on va continuer à faire des web diffusions.
Il ne faut pas décevoir les fans qui vous suivent.
Oui, oui, c'est puis ça. C'est ça, ah, parce que si on vous suit de loin, ça peut être aussi un nouveau lancement, ce qui n'empêche pas d'avoir le système d'être en salle, hein, évidemment. Au contraire. Oui. Mais aussi pour ceux qui ne peuvent pas être là, qui sont à l'extérieur du pays, ça peut être très intéressant de garder les deux si financièrement ça s'équilibre et qu'il y a possibilité évidemment de payer tout le matériel qu'il faut pour être en web diffusion parce que c'est un travail.
Mais vous savez qu'il y a d'autres possibilités, donc je suis en train de voir si on peut continuer à offrir du répertoire ou des concerts en ligne gratuitement. Parce que ça aussi, ça continue à engager notre public en ligne. Et donc ça, on ferait probablement avec des plus petits ensembles où on engagerait des solistes avec peut-être un de nos musiciens de l'orchestre ou quelque chose comme ça pour continuer à rester vivant en ligne.
Mais ça, c'est une idée fabuleuse.
Oui, oui. Ça, c'est sûr qu'on va faire ça, mais comment et à quelle date et tout ça, c'est à voir. Donc, on va le travailler.
Ça a fait bouger très, très vite la créativité de tout le monde, y compris la vôtre. Hein.
C'est ça.
Ah oui.
Je pense bien que c'est venu pour rester.
Hein. Oui. Vous avez bougé là-dedans pour essayer de vous remettre à niveau de ce qui se passait. Et c'est tant mieux et c'est très bien.
Vous savez que pandémie ou non, à chaque siècle, le monde de la musique en général, que ce soit classique ou pop ou quoi, est toujours en réinventation. Donc, on doit toujours réinventer ou repenser ou penser en dehors de la boîte. C'est rien de nouveau pour nous.
Bon, ben écoutez, alors, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation, notre invitation. C'était un vrai plaisir de vous entendre et puis... on le redit sur le site.
Merci beaucoup, Taras Kulich.
Sur le site,
merci.
Donc, orchestre, on a dit orchestre.ca, c'est
.ca,
ça
.ca, tout court.
Exactement,
voilà.
Oui. Je vous remercie de m'avoir invité.
Merci, Taras Kulich.
Un plaisir.
Et bonne continuation. À bientôt.
Merci, au revoir.
Alors, sur cette belle et douce musique qui s'appelle Méditation du violoncelliste Stéphane Tréteau, qui d'ailleurs lui aussi va se trouver sur la scène. Donc,
ça porte bien son titre, Arlette. Méditation.
Oui, méditation, voilà. C'est très beau.
Ça permet de rester, ça donne de la zénitude en plus. Voilà.
complètement. Écoute ouais. ça, si c'est doux, c'est comme un bonheur de murmurer au-dessus de cette musique-là. Voilà,
à force d'avoir des invités de ce milieu classique, je finirai par adopter la musique classique, moi.
Pourquoi pas ? Ben moi, oui. de même, parce que j'ai fait des belles rencontres dans ce milieu-là auxquelles je ne me serais pas attendu. Donc, Taras Kulich, qui est directeur général de l'Orchestre classique de Montréal, et je me doute qu'avec le nombre de musiciens qu'il y a sur scène, toute cette grosse machinerie, j'ai envie de dire, ça ne devait pas être très évident de transformer ça pour le faire en web diffusion. Mais qui sait, de toute façon, le changement existe et il continuera à exister, même s'il est moitié-moitié. Pourquoi pas, pour le plus grand bonheur de tous ceux qui sont à l'extérieur et qui pourraient suivre...
Voilà, ce qu'il a dit, c'était très important, Arlette, tu vois. Et cette histoire de se faire voir, d'être vu, suivi par des gens à l'extérieur même de la province, à l'extérieur du Canada, à l'extérieur même de la... Une fois c'est sur le web, là, je pense bien que les gens vont continuer comme ça, d'une manière plus ou moins hybride, pour permettre aux fans, les gens qui les suivent de l'extérieur, de pouvoir toujours apprécier la musique, ou bien les arts, ou bien les œuvres qu'ils mettent en ligne.
Si ça vous a plu à vous aussi, eh bien écoutez, on l'a dit, vous mettez sur le site, je vais voir s'il a écouté Fulgence, sur le site.
Alors tu vas voir, tu te rappelles plus.
Alors c'est non, c'est à toi que je demande.
C'est orchestre.ca tout
bravo
court, hein, faut pas mettre musique classique là.
Bravo.
C'est orchestre.ca. Alors si je demande le site des rendez-vous de la francophonie.
Sur les rendez-vous de la francophonie.
Ok. RVF.
RVF.ca.
Voilà.
C'est vrai qu'on ne dit pas rendez-vous de la francophonie en entier, on emploie RVF.
Voilà.
Eh ben, en tout cas.
C'est jusqu'à la fin du mois de mars. Merci
on arrive tout doucement à la fin de cette émission. C'est vrai que ça a été une belle rencontre, Yao, que je ne connaissais pas. Il a une voix fantastique. J'ai vu des vidéos de lui quand il parlait dans des ateliers d'écriture qu'il a fait, des choses comme ça. Il a une voix magnifique.
Il s'exprime bien en plus.
Et c'est vraiment très intéressant de discuter avec lui. Ça mérite... peut-être une prochaine invitation, qui sait, pour ne parler que de lui. Enfin,
en tout cas,
de son slam, puisqu'il est aussi écrivain. Donc, tu nous en parlais tout à l'heure. Il a donc écrit des livres en même temps qu'il a fait des slams.
C'est ça.
Donc, que dire de plus ?
Un c'est peu parfait. De jazz dans son style musical
Un
aussi.
Un peu de jazz aussi.
Oui, R&B, tout ça. Donc, on aura la prochaine fois l'occasion de le découvrir.
Ce que j'ai lu sur lui, c'était voilà, ce qu'il avait aimé, à quoi ça ressemblait, etc. Donc, je trouvais ça très intéressant. Je me suis dit, il aime les mêmes que moi. Mais moi, c'est pas pour ça que j'ai fait du slam. Mais qui sait ? Peut-être que j'aurais dû me lancer.
Vous avez entendu, hein ? Alors là, le jour que je vous dis que j'invite ma collègue Arlette qui va parler de sa carrière de slameuse, ne soyez pas étonnés.
Ah ben, ça serait alors, une toute petite
alors,
carrière.
Alors là, c'est parti là. Aujourd'hui, c'est le combien là ? C'est le 10 mars 2021. Je suis en train d'écrire Arlette, tu vas.
Qui va slammer. Eh bien, écoutez.
Tu vas être surprise quand je vais te rappeler ça.
Laissez-moi jusqu'à l'été pour écrire quelque chose. Alors.
Maurice qui est là-bas qui dit rien.
J'espère que, en tout cas pour vous toutes et tous qui écoutez cette émission, j'espère que vous avez été contents d'être avec nous pour la musique, que ce soit
découvrir
le slam ou la musique classique.
Ouais,
merci à toutes
artistes.
Et tous.
On dit merci à.
Merci à Maurice Bolduc pour les musiques. Et puis on se dit demain.
Et puis on se voit demain, mais n'oubliez pas, nous sommes la démission rediffusée du mardi au samedi matin, 5h du matin.
Voilà.
Très important.
Bravo, Allez. Fulgence. Au revoir.
On vous dit ciao.